Je vous propose de lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation adressée au peuple, parlez. » Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Et puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et, après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts, et il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, et je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes, promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez-vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre. Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux, et ils les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Nous sommes dans le premier voyage de missionnaire de Paul. Nous sommes dans la ville d'Antioche de Pisidie. C'est une ville située en plein milieu de la Turquie actuelle. Et Paul, en arrivant dans cette ville, est allé à la rencontre des Juifs, dans la synagogue. Et puis ensuite, il a annoncé la bonne nouvelle à tous, même aux non-Juifs. Il y avait dans la synagogue des Juifs, mais aussi des prosélytes juifs ou des craignants Dieu. Dans le livre des Actes, nous recensons six prédications plus ou moins détaillées. Dans Actes 2, il y a la plus célèbre, celle de Pierre, où il ne fait que parler de Jésus. Dans Actes 3, il y a la prédication de Pierre suite à la guérison du boiteux. Dans Actes 7, il y a la prédication d'Étienne, devant des religieux qui ne la supporteront pas et finalement qui le lapideront à l'issue de son message. Dans Actes 10, il y a la prédication de Pierre chez Corneille, où c'est même Dieu qui va conclure, en ouvrant leur cœur et en répandant son esprit. Dans Actes 17, il y a la prédication de Paul à Athènes. C'est certainement la plus différente de toutes, car Paul ne s'adresse pas à des Juifs, mais à des Grecs, et il s'y prend différemment. Et donc ici, dans Actes 13, nous avons la prédication de Paul à Antioche de Pisidie, la moins connue. Luc nous rapporte pourtant de manière assez détaillée cette prédication qui fut apportée dans une synagogue, j'insiste. La prédication de Paul à Antioche est un peu construite sur le même chemin que les précédentes, dans le sens qu'elle s'appuie beaucoup sur l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse à des Juifs et à des prosélytes. Et ce qui est remarquable dans ces six prédications, c'est que même si elles sont des fois différentes, elles se concentrent et elles se focalisent toutes sur la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul s'est efforcé de démontrer dans cette prédication faite à Antioche ? Je voudrais faire apparaître trois choses. D'abord, Paul s'est efforcé de démontrer que Jésus s'inscrit dans la continuité de ce Dieu qui a toujours pris soin du peuple juif depuis le début. Et même, il en est l'aboutissement. Comment est construite la première partie de sa prédication ? L'intention de Paul est de dire « Le Dieu qui est intervenu par le passé en faveur d'Israël est celui qui intervient désormais dans la personne de Jésus. » La première partie est construite ainsi. Au verset 17, Paul rappelle et parle de ce Dieu qui a mis en honneur Israël en Égypte avec les patriarches et comment Dieu les a protégés de la famine. Et il veut dire « C'est le même Dieu qui intervient en Jésus. » Au verset 17 toujours, l'apôtre Paul rappelle que Dieu est intervenu puissamment en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage et son intention est de dire que c'est le même qui est venu au travers de Jésus pour nous délivrer de nos péchés. Au verset 18, le Dieu qui a pourvu miraculeusement pendant 40 ans pour faire vivre le peuple d'Israël dans le désert avec la manne et l'écaille, c'est celui qui a pourvu en Jésus et qui s'est lui-même présenté comme le pain de vie, dans Jean chapitre 6. Au verset 19, Paul veut montrer le Dieu qui a donné une terre à la nation d'Israël en éliminant sept autres nations. C'est celui qui a donné Jésus. Au verset 20, le Dieu qui a suscité des juges, des libérateurs, notamment Samuel, pour libérer Israël, c'est ce Dieu qui a suscité le plus grand des libérateurs, Jésus. Au verset 21, Paul veut dire que le Dieu qui a supporté d'être mis à l'écart quand le peuple a demandé un roi et qui leur donna quand même un roi, eh bien c'est celui qui est venu en Jésus et qui a accepté d'être rejeté sur la croix. Au verset 22, le Dieu qui a suscité David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est le même qui a suscité Jésus pour délivrer encore, pour pouvoir au besoin, pour secourir miraculeusement. Regardez au verset 23, il reprend le mot « suscité » pour faire le lien. Le Dieu qui a suscité David a aussi suscité Jésus. Et j'ajoute que le mot « suscité » se retrouve aussi dans le mot « ressuscité ». Au verset 24, le Dieu qui a suscité Jean-Baptiste, c'est ce Dieu qui préparait la venue de Jésus. C'est un message que les Juifs comprenaient facilement. Le Dieu qui est intervenu chaque fois dans l'histoire du peuple juif quand il était dans le besoin et dans les difficultés, en exerçant sa grâce, c'est ce Dieu-là qui a envoyé Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Le message que je peux faire passer ici et que je voudrais vous faire passer, c'est que la venue de Jésus, l'incarnation de Jésus, c'est Dieu qui vient à ton aide et à ton secours. Jésus, c'est le secours de Dieu donné aux hommes. C'est la réponse au SOS des hommes. Quelque temps après, l'apôtre Paul a eu la vision d'un Macédonien et qui lui dira « Secours-nous ». Peut-être que vous êtes dans cette situation, en pleine détresse, en pleine angoisse, en pleine difficulté, en pleine incompréhension, et vous criez quelque part en disant « Secours-nous ». Dieu répond à cette prière. Il a envoyé Jésus qui peut vous secourir, qui peut apporter la paix, qui peut déposer des certitudes, qui peut ouvrir un chemin nouveau dans votre détresse. Il est celui qui peut vous secourir comme aucun autre. Ne passez pas à côté de la bouée de sauvetage que Dieu vous tend. Deuxièmement, Paul s'était forcé de démontrer que la venue, la mort et la résurrection de Jésus avaient été prédites par David lui-même. Jésus est la promesse annoncée ou l'accomplissement de la promesse, le Messie attendu. C'est la deuxième partie de la prédication à partir du verset 26. Regardez le verset 29. « Après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix. » Paul explique que David a prophétisé des choses qu'il ne pouvait comprendre et des choses qui ne le concernaient pas directement. Les religieux avaient pensé qu'en crucifiant Jésus, ils avaient prouvé qu'il ne pouvait être le Messie attendu et annoncé. C'est tout le contraire. En crucifiant Jésus, ils ont certes accompli le dessein de Satan, mais ils ont aussi accompli le plan de Dieu malgré eux. Paul, en citant le psaume 2, le psaume 16 au verset 10 et le psaume 49 au verset 6, démontre que sa mort et sa résurrection étaient annoncées, programmées et en phase avec le Messie attendu. C'est très important pour comprendre ce qui s'est passé sur la croix, de réaliser que c'était annoncé, programmé depuis longtemps. Dieu avait prévu de se donner lui-même sur la croix. Jésus a donné sa vie, on ne lui a pas prise. Siméon, quand il a tenu Jésus dans ses mains, s'est écrié « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations » et gloire d'Israël, ton peuple. » Ce papy, rempli de l'esprit, avait compris que Jésus n'était pas seulement le sauveur d'Israël, mais le sauveur de toutes les nations. Il avait aussi compris le plan glorieux d'Israël, par qui venait le sauveur. Dans Romains chapitre 1, versets 1 et 2, ce texte rejoint le texte que nous avons lu, quand Paul parle de l'évangile qui avait été promis. La venue de Jésus-Christ devient une bonne nouvelle, quand nous saisissons ce qui s'est passé sur la croix et qu'il est ressuscité. Et le fait de réaliser que c'était programmé et annoncé aide à saisir le message de la croix. La croix n'est pas un accident, elle n'est pas un fait divers, elle est quelque chose qui a été programmé depuis le ciel pour sauver les pécheurs que nous sommes. Et puis, troisièmement, Paul a déclaré ce que Jésus apporte dans les vies. Quelle que soit la manière dont on procède dans la prédication de l'Évangile, voilà où finalement toute prédication de l'Évangile digne de ce nom doit aboutir. Paul en arrive à parler du pardon des péchés et de la justification. Dieu pardonne nos péchés quels qu'ils soient. Il le fait au niveau de la loi divine, devant Dieu. Il le fait au niveau de la conscience. Il est celui qui nous transforme. Il y a plusieurs choses importantes qui sont contenues dans les versets 38 et 39. D'abord, Paul dit clairement que tout le monde a besoin d'être pardonné de ses péchés et d'être sauvé. Il s'adresse à des Juifs qui auraient pu penser qu'ils n'étaient pas concernés, et il leur montre bien qu'ils avaient besoin d'être sauvés, et que personne ne doit se tromper. Nous sommes tous des pécheurs, et nous avons tous besoin d'être sauvés. Le péché est international. Il parle toutes les langues. Ce n'est pas une suggestion, c'est une nécessité pour tous. Acceptez que le Seigneur pointe vers vos péchés. N'y restez pas, cherchez à en être délivré en vous tournant vers Jésus. L'apôtre Paul dit clairement que tout le monde peut être sauvé. Il dit « quiconque croit est justifié ». Quiconque, ça veut dire n'importe qui, même si on n'est pas n'importe qui. Mais tout le monde ne le sera pas si on le refuse. Quand on lit la suite, on voit que la prédication de Paul a suscité un enthousiasme chez plusieurs, mais aussi un refus évident chez beaucoup d'autres. Paul nous montre que tous les péchés peuvent être effacés. Le pardon des péchés vous est annoncé. Paul ne dit pas le pardon de certains péchés ou des péchés les moins graves, non. Dieu peut effacer tous les péchés. Aucun ne résiste à l'efficacité de la croix, du sang de Jésus-Christ. Certaines tâches résistent aux meilleures lessives, mais aucun péché qui lui est apporté ne résiste à l'efficacité du sang de Jésus. L'une des tactiques du diable est de faire croire que certains péchés sont impardonnables. C'est une tactique qui marche avec certains chrétiens. Une remarque qui me paraît intéressante, les sacrifices de l'Ancienne Alliance ne couvraient pas tous les péchés. Certains péchés ne pouvaient être pardonnés. Dans l'Ancienne Alliance, par exemple l'adultère ou le blasphème. Mais désormais, le pardon des péchés, le pardon de tous les péchés est accessible en Jésus-Christ, disponible à qui veut bien le croire. Et là, nous percevons bien que les sacrifices de l'Ancienne Alliance étaient insuffisants aussi à ce niveau-là, et que le sacrifice de Jésus est bien plus excellent. Enfin, ce que Paul dit, c'est que le seul moyen pour être sauvé, c'est de se tourner dans la foi vers Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et il n'y a pas d'autre possibilité pour être sauvé. Les Juifs cherchaient vainement dans la loi de Moïse un moyen pour essayer de se sauver. Mais la loi de Moïse ne pouvait faire cela. Elle faisait découvrir ce que Dieu voulait en termes de moralité, ce qui est bien et ce qui est mal, mais elle ne sauvait pas celui qui faisait ce qui est mal. Et toute autre religion ne le peut pas non plus. Ce qui rend l'évangile unique, c'est la grâce. C'est Jésus qui accomplit le salut dans les cœurs. Je termine en disant ceci, comprenez. Comprenez que la venue de Jésus s'inscrit dans la continuité d'un Dieu qui a toujours pris soin de son peuple. Comprenez aussi que la mort et la résurrection de Jésus étaient programmées parce que c'est le seul moyen pour être sauvé. Et comprenez bien que Jésus seul apporte le pardon des péchés, la justification, la délivrance et le salut. Reconnaissez que vous êtes un pécheur. Tournez-vous vers Jésus et croyez dans ce qu'il a fait pour vous. Il y a ceux qui y ont accepté et qui se sont laissés transformer, qui ont expérimenté la nouvelle naissance et eu l'assurance du salut. Et il y a ceux qui ont fermé leur cœur et leurs oreilles. Et ils sont rapidement devenus jaloux, hostiles, agressifs, haineux. De quel côté allez-vous vous placer? Mais l'évangile ne peut pas laisser indifférent quand on commence à le saisir. Seigneur, merci d'être venu. Merci Seigneur parce que ce Dieu qui a toujours protégé et secouru dans l'histoire d'Israël, c'est celui qui est venu nous secourir. Merci pour ta mort et ta résurrection parce qu'elle est notre salut. Et je prie pour que, à l'écoute de ce message, tu déclenches la foi dans le cœur de quelqu'un qui n'aurait pas expérimenté le salut, qui sera encore dans le doute, dans la confusion, avec une conscience qui le culpabilise. Seigneur, sauve maintenant, au nom de Jésus. Amen.